carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
À l'occasion du centenaire de la mort de Jules Massenet, nous recevons Daniel Pistone, musicologue et correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, pour évoquer le pianiste, compositeur né en 1842 et dont nous parlerons beaucoup en 2012, Jules Massenet, qui a laissé une œuvre essentiellement lyrique, 25 opéras, mais aussi pianistique et symphonique, membre de l'Académie des Beaux-Arts, élu en 1878, une longévité importante dont nous allons parler. Première question, Daniel Pistone, que faut-il retenir de Jules Massenet ?
Peut-être déjà qu'il n'aimait pas son prénom Jules.
Ah, sur ça, ses c'est, cartes de visite. C'est une bonne bonne indication.
Sur ses cartes de visite, il écrivait Monsieur Massenet.
Ah, pourquoi n'aimait-il pas ce prénom magnifique ?
Alors, déjà, vous voyez, un psychanalyste frétillerait. Donc, Massenet, Monsieur Massenet, que faut-il en retenir aujourd'hui ? Il est sûr que, de son vivant, c'était un des plus grands compositeurs français du temps, comme Saint-Saëns. Il y avait d'ailleurs une rivalité importante, si on pense que Massenet était 7 ans plus jeune que Saint-Saëns et qu'il est entré à l'Institut avant Saint-Saëns. Alors, la petite histoire dit qu'il aurait, le soir, écrit un mot à Camille, son amie Camille Saint-Saëns, en lui disant que l'Institut s'était trompé et que Saint-Saëns avait répondu « certainement ».
Merci pour l'anecdote.
Massenet, effectivement, est entré jeune à l'Institut. Il avait 36 ans et il restera. Donc, il entre en 78, il meurt en 1912, comme vous l'avez rappelé. Donc, si je calcule bien, 33 ans à l'Institut, c'est presque un record.
Très long, très long. Oui. Il est très connu de son temps. C'est assez rare d'être aussi connu de son temps. À quel niveau ?
Il est connu parce qu'il écrit beaucoup d'ouvrages lyriques. Et qu'au XIXe siècle, quand on écrit de la musique de piano, on n'est pas destiné à être très connu. Chopin, finalement, a vécu longtemps dans l'ombre. Liszt, quand il est arrivé à Paris, on a voulu lui faire écrire un opéra. Il a fallu que Liszt s'impose à l'orchestre, même si c'était un pianiste virtuose. Donc, Massenet a écrit, comme vous l'avez dit, plus de 12 d'opéras. Il a écrit énormément de mélodies qu'on chantait dans les salons. Tout le monde chantait Massenet, que ce soit des extraits d'ouvrages lyriques ou des mélodies. Donc, c'était le chouchou de ces dames. C'était en plus un compositeur sensible qui inventait des mélodies sensuelles.
Comme ?
Sensuelles, tout en courbe et en contre-courbe, comme dans Manon, précisément. Cet ouvrage, donc, l'opéra comique a fait créer en 1884, à une époque où il était déjà couvert de gloire. Pensez, prix de Rome à 21 ans, à 25 ans, déjà joué à l'opéra comique. Un ouvrage qui n'a pas eu beaucoup de succès, dont César de Bazan. Mais très rapidement, joué à l'opéra, avec succès. C'était Le Roi de Lahore, juste un an avant son entrée à l'Institut. Et le succès n'est pas innocent. S'il entre à l'Institut, c'est bien parce qu'il a eu beaucoup de succès l'année précédente avec Le Roi de Lahore. Et l'année de son entrée à l'Institut, cet ouvrage est donné en Italie. Et pour la première fois, les Italiens disent que vraiment les Français ont des courbes mélodiques extraordinaires. Et on sait que Puccini, qui lui aussi écrira une Manon, Lescaut, un peu moins de 10 ans plus tard, admirait beaucoup l'œuvre de Massenet. Et ceux qui n'aimaient pas Puccini, par exemple Leon Cavallo, qui avait été en rivalité avec lui, disait qu'il avait pillé Massenet, Puccini, pour écrire sa Manon Lescaut. Donc vous voyez, toutes ces petites histoires très humaines, de rivalité, de jalousie, n'enlèvent rien à la gloire de Massenet. Massenet d'ailleurs qui était très bon avec ses collègues compositeurs, qui était quelqu'un, encore une fois, de gentil, de compréhensif, de sensible. Vous avez dit qu'il était pianiste, oui, il a beaucoup de gravures, de photos, de caricatures, le représente au piano. Mais il n'a pas été un pianiste prodige, au contraire de Saint-Saëns, justement, au contraire de Liszt. Sa maman était pianiste, et on sait que les enfants de maman pianiste deviennent souvent pianistes. Mais il avait par exemple aussi joué de la timbale au sortir de l'adolescence. Et les percussionnistes des orchestres deviennent en général de bons chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'il avait plusieurs cordes à son arc. Et puis, il était professeur au conservatoire, professeur de composition au conservatoire de Paris. Ce n'est pas rien.
Hein. Beaucoup d'activités.
Beaucoup d'activités, et c'est ce qui fait que être joué à l'opéra comique et à l'opéra, être professeur de composition au conservatoire, que voulez-vous de plus ? On entre à l'institut à la fin du 19e directement. Et c'est comme ça qu'il a dépassé sa sens.
Mais alors, pour réussir à tout faire dans la journée, il était véritablement staccanoviste. On lit qu'il avait une force de travail impressionnante, qu'il se levait à 4 heures du matin pour pouvoir faire passer les auditions, écrire, composer, donner les cours. Enfin, c'était un passionné. C'était, à la fin, il ne vivait qu'à travers sa musique.
Recevoir les artistes hein, dans l'arrière-boutique de cet éditeur qu'il aimait beaucoup, Hartmann. Donc, c'est vrai que la vie d'un compositeur au 19e siècle, c'est harassant. Hein. Ajouter qu'il se dévouait beaucoup pour ses élèves. De composition. Il n'a pas pu d'ailleurs rester professeur de composition toute sa vie. Il a eu trop de succès au théâtre hein, pour rester au conservatoire. Donc, il a terminé son existence couvert de gloire. Pas forcément toujours avec des ouvrages qui ont eu beaucoup de succès. Alors, vous me demandiez comment découvrir ou redécouvrir Massenet. Parce qu'il faut quand même dire que cette Manon que l'on va réécouter cette année... Elle est quand même moins célèbre que la Carmen de son ami Bizet. Les deux ouvrages français qui sont les plus joués dans le monde sont Faust, mais plus que tout, Carmen. Carmen, parce qu'en plus, c'est la couleur, c'est la force. Hein. Ce sont des histoires voisines. Dans les deux cas, le malheureux monsieur est séduit par la dame un peu frivole. Hein. Mais dans Carmen, c'est encore plus tragique, puisque Don José va poignarder Carmen par jalousie, tandis que là... Et c'est toute la différence, peut-être, entre Bizet et Massenet, parce qu'on sait que c'est Massenet qui a choisi le sujet. C'est Massenet qui a voulu écrire une Manon, alors qu'il y en avait une assez peu de temps auparavant, et de Aubert. Aubert qui avait été directeur du conservatoire, membre de l'Institut, naturellement. Mais réécrire une Manon après Aubert, même si au début des années 1880, la Manon Lescaut d'Aubert n'était plus tout à fait à la mode. C'était le style brillant avec des vocalises. On connaît bien encore le fameux éclat de rire de Manon hein, d'Aubert. Donc celle de Massenet, d'abord elle s'appelle Manon tout court, ce qui crée immédiatement une espèce de familiarité hein, beaucoup plus grande. Ce n'est pas Manon Lescaut, mais c'est Manon. Et Massenet, immédiatement, a dit à son librettiste, parce qu'en plus, entre Carmen et Manon, il y a un même librettiste, qui est Henri Meillac, dont on dit qu'il n'aimait pas la musique d'ailleurs, mais passons. Meillac avec un critique du Figaro pour Manon. Et ce n'est pas rien d'avoir comme librettiste un critique littéraire qui est au Figaro. C'est tout de suite assurer le succès de l'œuvre. Donc Philippe Gilles, qui était le gendre d'ailleurs d'un autre compositeur connu, qui était Victor Massé, était critique au Figaro quand il a collaboré au livret de Manon. Donc tout ça explique à la fois l'histoire, si vous voulez, le roman de l'abbé Prévost, qui a été un roman à scandale. Vous savez bien que tous les romans à scandale, 50 ou 100 ans après, on a de cesse hein, que de les redécouvrir.
Bien sûr.
Alors il faut dire qu'il est édulcoré, parce que la Manon Lescaut de l'abbé Prévost ne serait pas passée à la scène comme ça au 19e siècle. Hein. Commençons déjà par Lescaut, le frère de Manon chez l'abbé Prévost devient un cousin, parce qu'il y a des actions qu'un frère n'aurait peut-être pas tolérées chez une jeune fille, même frivole. Hein. Donc une Manon certes édulcorée, et des mélodies qui sont tout à fait représentatives de leur époque, et qui, en 1884, si on fait un brin d'histoire, était intégré à un ouvrage quand même novateur. Il faut bien voir qu'écrire de la musique en 1884, c'était difficile, parce qu'on venait de découvrir Wagner. Et comment écrire pour la scène lyrique après Wagner ? Massenet appréciait Wagner. Et pour l'opéra comique, puisque la Manon d'origine hein, est écrite avec des dialogues parlés, et avec une technique qui n'était pas exceptionnelle, mais qui était très rare avec cette intensité-là, c'est ce qu'on appelle le mélodrame. C'est-à-dire de l'orchestre sur des dialogues parlés ou sur de la pantomime. Ce n'est pas nouveau, mais Massenet le pratique à l'opéra comique depuis son premier ouvrage. Et là, dans Manon, il y a une présence du mélodrame, hein, ce mélodrame que Rousseau avait inventé avec Pygmalion et que les Allemands avaient beaucoup repris. Il y a une présence du mélodrame qui fait qu'on passe sans arrêt du parler au chanter, ce qui, techniquement est assez difficile. Donc c'est vrai que Massenet était un très grand compositeur. Alors pourquoi on y revient ? Parce que vous savez bien que le postmodernisme a ramené dans son sillage un peu de sentiment, un peu de romantisme, hein, et qu'après l'expressionnisme très dur qui a nourri l'opéra, surtout dans les pays germaniques hein, au XXe siècle, on recommence à chercher un peu de douceur. Donc c'est vrai qu'en retrouvant Manon, je crois qu'on trouve une photo très très exacte du Paris fin de siècle, hein, une psychologie de la femme très douce, très fouillée, très novatrice, parce que pour l'époque, encore une fois, ces ouvrages sont novateurs, même si depuis, on en a tellement entendu que ça finit par nous sembler un peu ancien. Hein. C'est très curieux. Vous voyez, Manon, un auteur comme Proust, trouvait que c'était une écriture très naturelle chez Massenet. Et dans la seconde partie du XXe siècle, on disait que c'était très maniéré. C'est vous dire comme le goût évolue. Donc Massenet, ça sera une année importante pour lui, 2012.
2012. Mais il n'y a pas que Manon. Il y a aussi bien d'autres opéras qui ont fait sa renommée. Lesquels peut-on citer pour les plus célèbres ?
Les plus célèbres, donc le Roi de Lahore, juste avant Manon, avait fait son succès à l'opéra. Il y a le Cid aussi.
Oui.
Le Roi de Lahore, Manon et le Cid, ce sont sûrement ceux qui se sont le mieux maintenus au répertoire. Mais encore une fois, Massenet était tellement chanté dans les salons. C'est très important les salons. Tous ces opéras sont réduits sur les pianos. À l'époque, on n'a pas d'autres moyens de reproduction du son. Ou plutôt, il existe, mais il n'est pas diffusé. Donc, pourquoi on pourrait dire finalement Massenet s'est moins bien maintenu que certains grands opéras comme ceux de Meyerbeer au XIXe siècle? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ce côté extrêmement spectaculaire des grands opéras de Meyerbeer. Et pourquoi Massenet s'est-il maintenu moins bien que Bizet? Moi, je dirais, pour un ouvrage lyrique, regardez aussi les possibilités de traduction. Parce qu'aujourd'hui, on donne souvent les ouvrages dans la langue d'origine. Mais on ne peut pas toujours. Par exemple, nous ne donnons pas Janáček dans la langue d'origine. Et de la même façon, tous les pays n'ont pas donné Massenet dans la langue d'origine. Or, regardez comme Bizet, par exemple, colle magnifiquement à l'italien. On dirait que Bizet est un compositeur italien. Des compositeurs comme Massenet, alors c'est pire pour Debussy, parce que écouter Péléas en chinois, ou même en italien, c'est extrêmement difficile. Donc ça peut expliquer aussi ce qui fait qu'un ouvrage s'est maintenu dans tous les théâtres du monde, et ce qui fait que Carmen s'est finalement mieux maintenu que Massenet, peut-être finalement trop proche de la délicatesse française.
Cela nous fait une belle introduction pour découvrir l'œuvre de Jules Massenet. 2012 est vraiment synonyme de nombreux événements. Nous en parlons sur le site de Canal Academy, un opéra, une exposition et puis d'autres événements à la Géode. Nous y reviendrons. Merci beaucoup, Madame Piston, d'être venue nous parler de Jules Massenet aujourd'hui à Canal Academy. Et nous nous retrouvons très bientôt sur le site canalacademy.com.
Avec plaisir.